Il est 6h40, c'est l'heure du Journal des idées. Avec vous, Jacques Munier, bonjour. Jacques Munier, vous êtes avec nous ce matin, Jacques, pour le Journal des idées à distance. On vous entend, Jacques. Alors, vous êtes confiné, un confinement qui invite à la lecture, Jacques. Malgré la fermeture des librairies, la plupart d'entre elles assurent des permanences pour y récupérer les livres commandés.
Eh oui. Et la dernière livraison de la NRF, la Nouvelle Revue Française, publie un dossier sur la littérature aujourd'hui au Centre des Humanités. Cynthia Fleury signe un texte sur la littérature contre le ressentiment. Il y a tant de choses, écrit-elle, que la littérature enseigne à la philosophie politique et à la psychanalyse, l'étendue du présent, la complexité du réel, la fonction symbolique, la dialectique du pur et de l'impur, l'art de sublimer. C'est ce que la philosophe désigne comme le défi du faire œuvre par la lecture ou l'écriture face au fracas du réel. Faut le souligner, dans cette opération, lecture et écriture sont les deux faces d'une même forme de sublimation par l'œuvre d'art. Dans notre société non seulement fracturée, mais aussi irréconciliée, où chacun estime qu'un tribut lui est dû, d'où le ressentiment qui se répand comme une pandémie et qui est l'objet de son dernier livre, Sigil amer, guérir du ressentiment, publié chez Gallimard. Dans le grand entretien accordé à Nicolas Dutamp pour l'hebdomadaire Marianne, à l'occasion de la parution de L'homme aux trois lettres chez Grasset, Pascal Quignard évoque également l'art de lire, un sentiment océanique, une espèce d'état de surprise. Il y a quelque chose dans la lecture qui n'a pas de fin ni d'objet. De même, lorsqu'on aime, on se métamorphose face à l'altérité de l'autre, l'inconnu prend la main. L'écrivain, là aussi, fait le parallèle entre lecture et écriture dans le creuset de la langue, la sienne en l'occurrence, une langue qui n'est pas actuelle, qui est comme traduite d'elle-même par tout ce qui la déborde, le latin, le grec. J'essaie de trouver une espèce d'effet d'arrière-monde qui l'approfondirait, explique-t-il, d'où la quête d'une langue qui traduirait sans cesse d'autres langues, d'autres sensations, d'autres sens, pour essayer de les faire revenir. La traduction vient de nous offrir le monument d'un auteur espagnol singulier, prolifique, Ramón Gómez de la Serna. Son autobiographie, parue en 1948 sous le titre intraduisible Auto Moribundia, publiée chez Quai Voltaire. Catherine Vasseur, sa traductrice, évoque dans Le Monde des Livres une façon de reconsidérer sa vie, non depuis l'outre-tombe à la Châteaubriand, mais depuis une existence travaillée par le néant dès la naissance. Et Pablo Neruda écrit après sa mort en 1963, toute son œuvre incarne sa propre agonie. Malgré ses allures égrenées, elle est solidement assemblée par la clarté spectrale de l'inventaire. Car c'est bien une sorte d'inventaire à la Prévert que l'ensemble de textes brefs qu'il a rassemblés dans ses Greguerias, l'une de ses œuvres les plus marquantes, par exemple L'horloge picore, le maïs du temps, ou encore Claquer une porte, c'est coincer les doigts du silence. Dans le supplément Next de Libération, Philippe Lançon estime que traduire Greguerias n'est pas plus simple que de traduire Auto Moribundia. Valérie Larbaud avait choisi Criairi, et de fait on entend Griterios dans Greguerias, mais aussi quelque chose de grégaire, agglomérat instinctif et condensé d'humour, de métaphores et de jeux de mots. L'autobiographie lève un coin du voile sur l'invention du genre littéraire si caractéristique de l'auteur paratactique, évoquant un souvenir de l'Arnaud à Florence, dont les deux berges lui semblaient disposées à l'envers. Il s'interroge sur cette perturbation de la stabilité des rives. C'était une greguería, et je suis allé vérifier dans le dictionnaire. En Espagne, les greguerías seraient faites d'une large phrase, d'un feston de devises, d'une contexture proverbiale ou grave, l'acceptation de l'instantané, écrit-il. J'exultais du chahut et de la volée d'étincelles de ce nouveau genre. Ramón Gómez de la Serna était l'animateur excentrique et joyeux de la tertulia du Café Pombo, au lieu de la vie littéraire et artistique de Madrid avant la guerre civile. Mais il était également familier des réunions savantes de la Revista de Occidente, la revue de José Ortega y Gasset. Dans son autobiographie, il raconte l'arrivée de Miguel de Unamuno, à l'image de ses évêques, auxquels le peintre place une cathédrale dans la main, comme si c'était une mitre. Il a porté de Salamanque l'université, le palais de Monterrey, le rectorat et sa pierre éclairée d'aubes de farine blanche.